D'autres voies sont possibles. Eh bien, ces mots sont ceux de Martin Verlaine, l'abbé d'Eisendeln, qui signe aujourd'hui dans le journal Sonntag un plaidoyer pour une église plus ouverte à l'écoute des préoccupations actuelles. Il évoque notamment l'attitude de l'église vis-à-vis des personnes divorcées ou le célibat des prêtres. Le texte Delphine Gendre fait écho aux récents propos de l'évêque de Coire, Monseigneur Wonder.
Oui, c'est juste, il est difficile de ne pas comparer les deux visions. D'un côté, Vitus Wander, qualifié par les médias d'ultra-conservateur. Alors cette semaine encore, il rappelait à l'ordre ses prêtres sur des questions liturgiques, par exemple sur l'usage du dialecte ou sur la place des laïcs à la messe. Et de l'autre côté, on a cette prise de position de l'abbé d'Einsiedeln. Pour lui, la situation de l'Église est carrément dramatique. Il est urgent d'ouvrir à nouveau le dialogue entre progressistes et conservateurs. Il évoque ainsi l'attitude de l'Église face aux personnes divorcées ou le célibat des prêtres. Alors Martin Verlaine cite même au passage un texte de Jean-Paul II où il rappelle que le célibat des prêtres est souhaitable, mais que cette pratique a été instaurée au fil de l'histoire, qu'elle n'est pas un dogme, mais une règle. D'ailleurs, des exceptions existent, par exemple dans les églises catholiques de rite oriental. Quant à la question de la place des femmes, le bénédictin estime que l'église se montre toujours maladroite et désemparée. Bref, pour Martin Verlaine, il n'est pas question de s'adapter bêtement à la mode actuelle, mais bien de comprendre notre époque et donc d'accepter qu'il y ait plusieurs voies possibles.
Delphine Gendre, merci.
Nicolas Butette avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes modérateur de la Fraternité Eucharistique, vous êtes prêtre Nicolas Butet. Alors on a entendu Martin Verlaine, vous le connaissez Martin Verlaine, ça vous a surpris ces propos ?
Oui, écoutez, pas tellement. Quant au diagnostic, je suis entièrement d'accord avec lui, la situation est assez tragique en Suisse et il est absolument urgent et nécessaire de faire des réformes dans l'église qui est en Suisse. Alors on s'est rencontré des années en arrière quand nous étions à l'université, on s'est croisés une fois l'autre, mais peu à part ça.
Mais Nicolas Butet, sur le fond, ce qu'il dit est assez intéressant, sur le célibat des prêtres par exemple, il rappelle que Jean-Paul II en parlait, mais forcément dans les églises même qui sont fidèles au Vatican, dans le rite oriental, il y a des prêtres mariés, même d'ailleurs dans votre église catholique, on peut devenir à quelques rares exceptions, les viri probati, il y a des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres. Pourquoi est-ce qu'on en fait un tel blocage, entre guillemets ?
Mais c'est là peut-être que la réflexion de l'abbé Verlaine me paraît un peu gênante dans la mesure où le conseil est parfait, mais il continue à penser en termes de structure et de modèle ecclésial suisse. Or, je pense qu'il faudrait ouvrir un peu les horizons. Quand on ouvre les horizons, on voit que dans l'église, il y a à la fois des prêtres mariés, dans les églises melkites, maronites, enfin toutes les églises orientales. Il y a d'ailleurs un prêtre qui appartient à une de ces communautés qui habite Fribourg et qui est absolument extraordinaire. Et donc, on a ces modèles qui sont là. Et puis, on a cet appel à une certaine radicalité évangélique que représente le célibat du prêtre dans un désir évangélique. Et je crois que c'est peut-être ça qui manque à l'église de Suisse. L'abbé Verlaine parlait d'une église qui doit s'ouvrir de manière urgente. Je pense que c'est absolument nécessaire, mais s'ouvrir à l'évangile, à l'Esprit Saint. Et c'est peut-être là que nous différencions quant aux solutions proposées à partir d'un diagnostic que nous partageons.
Nicolas Butet, il y a toujours ce dilemme pour une église, pour une religion, c'est à la fois avoir le maximum de fidèles, puis en même temps, il faut garder sa ligne, il ne faut pas trop coller forcément à tout ce que la société aimerait. Mais là, dans l'église catholique, il y a le risque d'arriver avec un petit réseau de noyaux de fidèles. En tout cas, en Suisse alémanique, il y a une vraie crise là-bas dans l'église. Un petit noyau de fidèles qui suit les préceptes, et puis de plus en plus de fidèles qui se désintéressent.
Je voudrais juste prendre deux petits exemples. J'étais aujourd'hui avec un ami américain qui me disait que l'église presbytérienne américaine, épiscopalienne, qui a adopté les mesures que prône Mgr Verlaine, a diminué en 10 ans de 40% de ses membres. Et aujourd'hui, à Fribourg, avait lieu un rassemblement de 1300 catholiques, qui n'a jamais plu aux évêques, d'ailleurs, ou en tout cas, qui se sont toujours approchés de ce rassemblement de manière un peu difficile. Il y a eu 500 confessions durant la nuit, 1300 dans la plupart des jeunes, et qui est un événement marquant, quand même. Et je crois qu'il y a une façon d'aborder les questions qui reste complètement prise dans la structure ecclésiale, dans le système, dans une espèce d'administration cléricaliste. Et donc, on ne sort jamais de ça. Je pense qu'il y aurait vraiment une espérance nouvelle à donner à l'Église qui est en Suisse, en voyant d'autres modèles. À Rimini, il y a 800 000 catholiques qui se réunissent chaque année dans une ferveur, dans un mouvement de spiritualité, de réflexion intellectuelle profonde. Et là, il y a un véritable renouveau où les questions ne sont pas celles qu'aborde
l'abbé Verlaine. Il ne faut pas en parler, en quelque sorte. Il ne faut pas trop y penser, ces questions-là.
Ah non. Non, au contraire, elles sont actuelles, mais pour nous rappeler à d'autres exigences, celles de l'Évangile. Je crois que François d'Assise a plus fait pour réformer l'Église sans aborder ces questions-là, mais en remettant l'Évangile et le courage et l'audace et l'amour des plus pauvres au cœur de sa mission que tous ceux qui ont dans un bureau essayé de réfléchir aux manières de réformer l'Église. Donc je crois qu'elles sont absolument capitales, ces questions, mais pour nous orienter vers des vraies réponses qui vraiment de repenser, comme disait l'abbé Pierre, de commencer à croire avec une certaine audace évangélique et avec un amour qui soit vraiment probant.
Des discussions, c'est important, vous l'avez dit, des discussions, il y en a depuis des dizaines d'années, des siècles et des siècles. Même, en revanche, des décisions, c'est quand même moins facile à prendre. Et là, l'abbé Martin Verlaine touche à deux questions qui sont très importantes. Le célibat des prêtres, l'ordination des femmes, au fond, quel est le sujet le plus délicat ?
Je pense que la question de l'ordination des femmes est différente. Simplement, prenons l'exemple de Mère Teresa. C'est une figure marquante de l'histoire de l'Église. Elle n'a jamais été prêtre. Elle a plus fait pour réformer l'Église que des milliers de prêtres ne feront jamais. Donc, par contre, elle pouvait vivre de l'Eucharistie que célébrait le prêtre dans la petite chapelle de Calcutta. Et donc, je crois qu'il faut repenser l'Église comme elle est conçue à partir d'une règle fondamentale qu'est l'Église, c'est la sainteté. Et dans ce cas-là, les ministères ne deviennent pas des fonctions. On n'est pas dans une Église financée, administrative. On est dans une audace prophétique qui véritablement permet à chacun de tenir sa place et où les plus grands prophètes ne sont pas toujours des prêtres, pas toujours des évêques et peut-être même pas des papes.
Nicolas Buter, au fond, ce que vous nous dites, vous me direz si c'est juste, mais c'est qu'on revient notamment dans les médias un peu toujours avec les mêmes sujets. Mais Martin Verlaine dit ça dans sa contribution. Il dit ça fait 40 ans qu'on a toujours les mêmes sujets qui reviennent dans l'Église catholique. Mais pour lui, il fait peut-être l'analyse inverse. Il dit ça veut peut-être dire qu'on les a pas réglés justement et qu'il faut les régler ces problèmes.
Ou qu'on les a mal réglés en tournant autour de ce pot, en disant, mais voilà, on est pris d'un côté entre hommes qui nous dit une chose, et puis nous qui sommes poussés de l'autre côté. Ça donne un peu l'image de médecins au chevet d'une personne anémique et moribonde, qui se disent, eh bien, essayons de relooker la personne pour lui redonner des forces et de la vigueur. Alors on va lui changer les habits, on va lui changer sa coiffure, et pendant 40 ans on a fait ça, on a changé la coiffure, changé les habits, sans penser qu'il fallait peut-être mettre une perfusion intraveineuse de vitamines et qu'il fallait peut-être redonner une nouvelle énergie à cette personne. Quel que soit le look qu'elle aura, elle pourra retrouver une vigueur et ensuite, ben, on verra bien comment les choses se placeront. Donc il me semble qu'on déplace complètement le débat et que tous ceux qui ont essayé d'aller dans ce sens-là, on voit chez l'Église anglicane en particulier, les églises issues de la Réforme aussi, qui ont ces questions-là, eh bien, toute perte des membres, encore de manière plus dramatique que dans l'Église catholique. Et je pense que le débat justement entre, j'allais dire, les traditionalistes ou l'aspect conservateur et progressiste est dépassé parce qu'il rejoint une même catégorie, on est toujours à l'intérieur de la cuisine intra-ecclésiale. Et alors, il faudrait vraiment sortir de ça pour dire, mais est-ce qu'on n'a pas une nouvelle audace évangélique, un nouveau feu évangélique, une ingéniosité créatrice pour redonner l'évangile à ce monde qui en a tant besoin, et Dieu sait si c'est nécessaire. Mais là, je vois que les évêques ne vont jamais voir ces lieux où ça vit. Je lui parlais de ces 800 000 personnes réunies en Italie, de ces 40 000 personnes réunies à Vézelay, de ces 1 300 personnes réunies à Fribourg ce week-end, et ils vont pas essayer de voir là qu'est-ce qui...
Il n'y avait pas Mgr Moreiro
Alors il était là, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait, c'est juste. Mais il a fallu faire des pieds et des mains, pas pour... Il y en avait un, tout à fait, oui, ça c'est très bien. Oui, je crois qu'il a compris la chose.
Je vous remercie beaucoup.
Il a bourlingué dans le monde.
Ouais.
Oui, il a compris le vrai enjeu.
Vous le connaissez bien à Fribourg. Nicolas Buter, oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous aussi, merci.